Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le foie fait partie des organes vitaux de notre corps et beaucoup de fausses croyances circulent à son sujet. Contrairement à certains préjugés qui illustrent parfaitement l'expression populaire « avoir mal au foie », eh bien le foie est rarement douloureux, si ce n'est même à certains stades avancés de certaines maladies. De la même manière, la taille du foie n'est pas toujours un indice infaillible de son état et encore, parmi les habitudes susceptibles d'altérer la santé hépatique, il n'y a pas loin de là uniquement l'abus d'alcool qui est en cause. Ces dernières décennies, en particulier dans les pays occidentaux, ce sont d'autres comportements du quotidien qui ont contribué au développement d'une mutation au niveau du foie. Des comportements alimentaires, soda, nourriture industrielle, trop de gras, trop de sucre, avec au terme de cette équation de la malbouffe, quatre initiales et le nom d'une nouvelle maladie, la NASH, maladie du soda ou encore maladie du foie gras, une maladie silencieuse sans symptômes qui dégrade insidieusement le foie. Une phrase, une citation que j'ai empruntée à votre ouvrage « NASH, la maladie de la malbouffe ». Docteur Dominique Lannes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hépato-gastro-entérologue à Paris, aux cliniques du Trocadéro et du Mont-Louis. Votre livre est publié aux éditions Flammarion, coécrit avec Catherine Siguret. Les maladies du foie, et nous allons bien sûr parler des hépatites virales. Nous retrouverons en ligne du Burkina Faso le professeur Roger Sombier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Yalgado Ouédraogo d'Ouagadougou. Et comme chaque vendredi en fin d'émission, notre rendez-vous sous le signe de la relaxation, reprendre son souffle, nous retrouverons le docteur Adrien Chaboche, médecin et psychothérapeute au centre Vitruve à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Et un gros travail de sensibilisation à effectuer sur la santé du foie, la santé hépatique, pour rendre ces maladies plus visibles, les faire mieux connaître, pour mieux les prévenir surtout. Aujourd'hui, c'est précisément la journée internationale de la NASH. Et il faut bien le reconnaître, hein, docteur Dominique Lannes, le nom de cette maladie du foie n'est pas forcément familier à tout le monde, loin de là. On va donc commencer par un petit exercice de définition très classique. La NASH, c'est quoi ?
Alors oui, c'est un nom qui peut paraître un peu barbare. C'est une maladie du foie et le mot NASH est l'acronyme, donc l'abréviation d'un terme anglo-saxon, puisque vous savez que le paradis de la NASH, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique. Eh bien, NASH, ça veut dire non-alcoolique. Ça veut dire ça n'a rien à voir avec la consommation d'alcool. Stéatosis, c'est le terme médical de foie gras. Et hépatitis, c'est une véritable hépatite. Le foie est en souffrance à cause du foie gras, de l'accumulation de graisse.
Et quand on dit que c'est une nouvelle maladie, vous écrivez dans votre livre, docteur Dominique Lannes, qu'en 30 ans d'exercice, eh bien, vous avez vu le foie de certains patients vraiment changer.
Oui, c'est exact. Les foies ont globalement grossi. Il faut demander aux chirurgiens digestifs. Ils voient des foies qui sont plutôt plus gros, plutôt plus arrondis et qui ont changé un peu de couleur. Ils sont devenus de rouge vif à plutôt un peu jaune, dû à cette accumulation de graisse.
Et cette taille du foie, elle est significative en termes de santé ?
Alors, attention. La taille du foie, vous savez, il y a des gens qui ont des grandes oreilles, qui ont des grands nez, et bien le foie c'est un peu pareil. Si vous êtes très grand, très longiligne, votre foie va être plus gros que quelqu'un qui est plus petit. Par contre, s'il est très très malade, oui, sa taille va significativement changer, soit augmenter, soit diminuer de volume.
Donc ce qui peut inquiéter, c'est un foie qui grossit.
Alors, le problème du foie, c'est qu'il est particulièrement silencieux et ne donne pratiquement aucun symptôme. Mais effectivement, un foie qui augmenterait de taille peut porter alerte.
Alors justement, vous en parlez fréquemment dans cet ouvrage, docteur Dominique Lannes, sur ce caractère silencieux, sans symptômes apparents de nombreuses maladies du foie, pas de douleur, contrairement à ce que pensent certains quand ils ont mal à un endroit de l'abdomen, ils disent c'est le foie. Or, vous expliquez que dans la plupart du temps, bien, ils se trompent. Des maladies silencieuses, alors comment faire justement en termes de prévention, les analyses, les tests qui permettent de contrôler la bonne santé de son foie, c'est quoi ces analyses?
Alors, ça passe en premier par la prise de sang, bien sûr, avec ce qu'on appelle le bilan hépatique, donc le dosage des transaminases, les enzymes du foie. Et quand celles-ci sont au-dessus des valeurs normales, ça peut bien sûr porter alerte. Ensuite, vous avez un deuxième examen qui se fait en pratique courante, c'est l'échographie abdominale où on visualise le foie et on va voir justement le foie, ses contours, voir s'il est bien homogène ou si au contraire il y a des signes de souffrance ou de maladie plus sévère, voire de cirrhose du foie.
Professeur Roger Sombier, on vous retrouve. Bien sûr, tout à l'heure, vous allez répondre aux questions nombreuses des auditeurs qui concernent les hépatites. Mais d'abord, si vous le voulez bien, au sujet de cette maladie du soda. Tout à l'heure, docteur Dominique Lane disait le paradis de la nage, c'est les États-Unis. Ce sont aussi les pays occidentaux, on va dire les pays riches. Vous, cette maladie du foie gras, est-ce que dans vos consultations au Burkina, vous traitez ce type d'atteinte, ce type de stéatose hépatique?
Oui, dans mes consultations au Burkina, effectivement, en consultation externe, de plus en plus, nous rencontrons donc les maladies du foie gras, parce que jusqu'à récemment, nous avions beaucoup plus fréquemment donc les hépatites virales, suivies donc des troubles fonctionnels digestifs qu'on appelle l'intestin irritable. Et nous voyons un peu après, très souvent en fait, des abcès du foie. Et de plus en plus, en troisième position, en consultation externe, je vois un foie stéatosique. Mais la majorité, c'est ce qu'on appelle un foie gras simple. Donc, le foie ne souffre pas. Le bilan hépatique est le plus souvent normal. Et donc, les malades n'ont pas d'inflammation. Mais il y a quelques patients qui montrent une anomalie du bilan hépatique qui nécessite une prise en soin pour cela.
Associé professeur à du surpoids ou à de l'obésité pour ces personnes qui présentent justement ce symptôme du foie gras?
Oui, la corrélation est le plus souvent très bonne. En fait, le surpoids, l'obésité, soit une hypertension artérielle ou une anomalie du bilan glycémique avec une élévation donc, du sucre dans le sang, voire des patients diabétiques. Mais il arrive de voir quelques patients qui n'ont pas totalement donc ces éléments associés. Mais le plus souvent, effectivement, on se retrouve dans ce qu'on appelle le syndrome métabolique.
Alors justement, par rapport à ces maladies du foie, on va parler bien sûr des problèmes qu'ils concernent, mais aussi question des auditeurs sur ce qui peut contribuer à la bonne santé du foie. Professeur Roger Sombier, je vous soumets ce message Facebook de Jean-Baptiste, auditeur à Kidal au Mali. Il nous demande quelles sont les règles d'hygiène à suivre pour protéger son foie en termes d'alimentation, en termes d'activité physique. Qu'est-ce qui est bon pour le foie?
Ce qui est bon pour le foie, c'est ce que je dis à mes patients le plus souvent. Le foie, c'est un organe silencieux. C'est l'usine de notre corps et tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons va passer obligatoirement par le foie. Donc, en fait, la bonne santé du foie va dépendre de notre régime alimentaire. Et en fait, il faut simplement avoir un régime alimentaire sain. Je n'interdis rien absolument à mes patients. De leur dire, vous l'avez dit dans l'émission tout à l'heure, c'est le trop qui est un problème. Donc, pas trop de gras, pas trop de sucre, pas trop de sel. Et le problème des patients et de la population en général, c'est que les gens voient le sucre en carreau de sucre visible. Alors que je leur dis, le foie gras en particulier, c'est une accumulation en fait de sucre dans le foie qui va être transformé en graisse. Donc, quand on a un foie gras, il faut mettre l'accent en disant au patient, oui, un régime peu gras, mais surtout un régime accentué, c'est une réduction des sucres, parce que c'est l'excès de sucre qui donne le foie gras. Et à ce niveau, le sucre, c'est ce qui est présent dans ce que nous mangeons, le riz, le maïs, les pâtes, le pain. Donc, toutes les céréales, en général, nous avons beaucoup de sucre caché dans l'alimentation. Et c'est ce sucre-là, en fait, qui va être accumulé au niveau du foie. et les capacités de stockage au niveau du sucre. Du sucre par le foie dans la journée, c'est 70 à 100 grammes. Alors que si vous faites le point, rapidement, un petit déjeuner, si nous sommes là très souvent en pratique, et moi le premier, à participer sur là, des congrès, à voyager, à aller dans des hôtels avec des buffets bien garnis dès le petit déjeuner, vous retrouvez à prendre un verre de jus d'orange, à prendre une omelette, à prendre du pain, à prendre une viennoise et un croissant, à prendre un peu de sucre, un café, vous retrouvez très très rapidement au-delà des 70 à 100 grammes quotidiens que le foie est capable de stocker donc en termes de sucre et qu'il va transformer en gras.
Alors malbouffe, soda, trop de sucre, aliments gras transformés, on a bien compris donc que c'est sur ces leviers notamment qu'il faut agir pour prévenir une maladie comme la NASH. Docteur Dominique Klahn, en termes de prise en charge maintenant, est-ce qu'il y a aujourd'hui un traitement disponible pour soigner cette stéatose non alcoolique?
Écoutez, le meilleur traitement c'est déjà de ne pas l'attraper, donc c'est de faire ce qu'a dit mon confrère, manger moins gras, moins sucré et avoir une activité physique. Actuellement, il n'y a pas de traitement médicamenteux qui permettrait d'éviter l'accumulation de graisse dans le foie ou d'éviter la fabrication de fibrose et la cirrhose ou de faire régresser une cirrhose. Il y a énormément de laboratoires dans le monde qui font des recherches sur ce sujet, mais pour l'instant, aucun n'est arrivé à proposer un médicament efficace. Donc, ça passe par la prévention et son changement de style de vie.
Docteur Klahn, professeur Sombier, vous restez avec nous tout de suite. Un témoignage dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce témoignage, c'est le vôtre. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde.
Vous faites partie de l'association Ensemble contre la NASH. Vous avez 72 ans aujourd'hui. Quand avez-vous été diagnostiqué, Gilles?
J'ai été diagnostiqué en 2015, formellement diagnostiqué en 2015. J'ai été suivi suite à une pancréatite aiguë depuis 2007 par un gastro-entérologue qui m'a diagnostiqué un NASH ou une NASH en 2015.
Suite à quel examen de santé? C'était une prise de sang, une échographie?
Alors comme je l'ai dit, j'étais suivi, donc j'avais tous les 6 mois une échographie, une prise de sang, 6 mois après une prise de sang, échographie, scanner, accompagnée de prise de sang à chaque fois, donc tous les 6 mois. Ceci parce que le chirurgien, lors de ma pancréatite aiguë qui m'avait enlevé la vésicule, avait trouvé mon foie en pas bon état. Vilain, quoi. Alors, il m'avait dit ça. Après, en termes médicaux, il a dû dire autre chose au gastro. Mais voilà, donc moi, j'ai eu la chance d'être pris en charge et d'avoir été suivi.
Et quand le gastro-entérologue prononce ce nom de cette maladie NASH, est-ce que vous savez ce que ça veut dire?
Il me l'a expliqué.
Et comment vous avez réagi?
Menace, j'ai bien compris. Eh ben, j'ai réagi, je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce que je viens d'entendre, j'avais une vie normale, sauf que j'étais toujours en déplacement, j'étais directeur de 3 sites industriels, donc les hôtels, ce qu'on vient de dire, ce que le médecin vient de dire, les hôtels, les trucs, les réceptions avec les clients, donc l'hygiène de vie. Donc voilà. Et j'ai eu peur, surtout que quand il m'a dit en 2015, il m'a dit on peut vivre comme ça, il ne faut pas que ça s'aggrave, ça ne peut pas s'améliorer. Votre foie est atteint, il ne peut pas s'améliorer. Donc c'est resté stationnaire pendant 2 ans et demi. On surveillait.
Voilà. Et ensuite, il y a eu l'évolution.
Un matin de 2017, au mois d'avril, je m'en souviens, comme un coup de poignard dans le foie, dans le ventre. Et je me suis roulé par terre, j'étais dans mon sous-sol, je me suis roulé par terre, une douleur phénoménale. Et donc après, tout de suite, le grand jeu, c'était un dimanche, donc j'ai attendu, je suis allé revoir mon gastro en urgence, et on a rien fait, sauf qu'il m'a refait faire plein d'examens. Je commençais à avoir un peu d'acide, donc il m'a mis sous diurétique. Qui ont compensé l'acide jusqu'à un certain point. qui a été dépassé rapidement. Et après, c'était les ponctions. À partir de l'automne 2017, c'était les ponctions régulières.
Et à partir de quand est-ce que, justement, l'optique de la greffe paraît incontournable, obligatoire pour vous sauver la vie?
Eh ben, ça s'est passé un jour où le médecin, où j'avais une visite, donc pendant mon suivi, là, l'automne, début de l'automne 2017, où il m'a dit, il y a deux échéances pour vous. Il y a la greffe, ou, et c'est moi qui ai conclu, ou le cercueil, je lui ai dit. Mmh. Il m'a dit oui. Je ne l'ai pas laissé dire, et c'est moi qui l'ai dit. Et après, on sort avec les jambes qui fagelent un peu. Donc je dis, il n'y a pas d'hésitation. Hein. Pour moi, c'est si je peux être greffé, c'est... Et on a tout de suite, j'étais à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Mm-hmm. Il m'a fait faire deux analyses de sang complémentaires. Il m'a dit un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit j'ai envoyé le dossier sûrement par mail. Le lendemain, l'hôpital me convoquait pour commencer les bilans entrés. Et j'ai eu d'abord des consultations avec les pathologues, avec un chirurgien, d'ailleurs celui qui m'a implanté le foie. Et on a commencé le processus du bilan.
Et ça a été assez rapide hein, jusqu'à votre transplantation, on peut dire.
Eh bien oui, parce que bon, le bilan, on est en septembre, on est en octobre-novembre, parce que j'ai fait en plus un purpura, histoire de tout arranger, de faciliter les choses, j'ai fait un purpura en octobre. Donc on a repris les bilans. Et ensuite, en février, j'ai été mis sur la liste des gens à transplanter, la liste nationale. Et j'ai été transplanté 5 semaines après, c'est-à-dire le 3 avril.
Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez et vous prenez quel médicament, justement, consécutif à cette greffe du foie?
Je me sens très bien physiquement, comme depuis des années, comme je n'ai jamais été depuis plusieurs années en arrière. Mmh. Je me sens très bien. Après la greffe, il faut remonter la pente, c'est lourd. On m'avait bien averti, c'est lourd. Mmh. Mais chaque jour est meilleur que la veille, donc ça vaut... Et ensuite, une fois qu'on est remonté, moi, il m'a fallu un an pour avoir récupéré 75% de mes moyens. Et dans les 6 mois qui ont suivi, un an et demi après, j'estime 100%.
Gilles, ce n'est pas du tout notre intention de faire de la morale, mais si aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui ont un petit peu votre style de vie, c'est-à-dire, on va dire, au-delà du bon coup de fourchette, c'est de faire des excès au quotidien, hein, de faire des excès parce que c'est aussi agréable et puis ça fait partie de la convivialité. Qu'est-ce que vous leur diriez, justement, pour ne pas en arriver là où vous êtes arrivé?
Ah ben, je leur dirais attention, je leur donnerai mon exemple, et je leur dirais attention, parce que c'est une maladie sournoise. On a pas mal avant que ça se déclare. On n'est pas, on vit bien. C'est très sournois. Et je leur dirais attention. Regardez mon exemple et je ferai pas la morale, mais après ils font ce qu'ils veulent. Et voilà. C'est pour ça que des associations comme Ensemble contre la NASH sont importantes parce qu'ils font.
Pour faire de la pédagogie, absolument.
Et oui.
On vous remercie beaucoup pour ce témoignage, Gilles. Merci aussi à Raphaël Constant qui nous a aidés pour la préparation. On entend bien ce récit de Gilles, hein, docteur Dominique Lane. Il le dit lui-même, attention parce que c'est silencieux. Et le jour où ça vous prend, eh bien, on est cloué au sol. C'est ce qu'il a raconté et ce récit est édifiant.
Oui, c'est exactement le scénario un petit peu catastrophe. Ça veut dire pendant des années, on ne sent rien, on ne... palpe rien, il n'y a aucune alerte. Et puis quand le foie est arrivé au stade de cirrhose extrêmement sévère qui ne fonctionne plus bien, eh bien là c'est le scénario catastrophe qui se déclenche. C'est l'acide qu'a décrit notre auditeur, donc de l'eau dans le ventre. Ça peut être aller jusqu'au coma, jusqu'à des hémorragies digestives. Et là le seul traitement est effectivement de changer le foie et donc de faire une transplantation de foie. Et avec un foie neuf, vous voyez que notre auditeur revit très bien et en bonne forme.
Mais par contre, ce que vous soulignez dans votre livre, c'est que compte tenu l'augmentation du nombre de cas de cette NASH, eh bien, c'est trivial, mais il n'y aura pas forcément des foies pour tout le monde.
Alors, vous savez qu'on parle beaucoup de pandémie en ce moment, donc du virus Covid, mais il faut savoir qu'oui, à l'échelon mondial, la NASH, avec le diabète et l'obésité, est également une pandémie qui avance lentement mais sûrement, de façon très silencieuse. Et donc, le nombre de transplantations, il faut savoir qu'aux États-Unis, la NASH est la première cause de transplantation du foie. En Europe, ça devient la deuxième, mais il y a encore l'alcool et les virus. Mais effectivement, un scénario pourrait être qu'on manque de foie pour les transplantations si l'augmentation augmente inexorablement.
Docteur Dominique Lane, avant de donner la parole à votre confrère, le professeur Sombier, j'aimerais juste une petite définition pour que nos auditeurs comprennent bien. C'est un syndrome inflammatoire, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre fibrose, un stade, et un autre, la cirrhose?
Alors, si vous voulez, à chaque fois que le foie est agressé, que ce soit l'alcool, un virus B ou la dinge, donc la graisse, eh bien, il s'inflamme et il va répondre à cette inflammation en fabriquant un tissu fibreux qui envahit absolument tout le foie. Et donc, plus vous avez de tissu fibreux et plus vous arrivez au stade de cirrhose. Et au stade de cirrhose, le foie est complètement désorganisé, envahi par ce tissu fibreux. Au bout d'un moment, il ne peut plus fonctionner correctement.
Il est plus souple, il n'y a plus justement la possibilité du sang de circuler correctement.
Oui,
c'est bien
alors,
ça? C'est comme s'il devenait pas granuleux, mais comme s'il y avait un petit peu de la matière dedans?
Oui, alors il s'indure, ce tissu fibreux indure le foie et surtout fait que le sang n'arrive plus à passer dans le foie. Donc ça pose des problèmes, il est obligé de contourner le foie, ça pose beaucoup de problèmes. Mais la cirrhose, c'est l'envahissement par un tissu fibreux, ce que j'appelle dans mon livre des petites fibres de plastique. Pourquoi des fibres de plastique? Parce que une fois qu'elles sont constituées, elles n'ont aucune tendance à régresser, ou alors très très lentement sur des années et des années.
Alors cette cirrhose qui est présente au stade ultime des différentes maladies du foie, on va parler des hépatites virales, professeur Roger Sombier, ces hépatites qui sont au centre de vos pratiques à Ouagadougou. Et pour un pays comme le Burkina, est-ce que vous avez des chiffres, des données en ce qui concerne l'hépatite B, mais aussi l'hépatite C?
Oui, concernant le Burkina Faso, l'hépatite B, c'est l'hépatite majoritaire et la prévalence, c'est-à-dire la fréquence de l'infection varie en fait suivant les différentes régions. Ça va de 6 à 11% avec une moyenne nationale entre 9 et 10%, je dirais, donc ce qui est clairement au-dessus des 8% donc classés par l'OMS comme étant des régions de haute endémicité. Et si vous appliquez les 10% sur les 21 millions ou un peu plus de Burkinabés que nous sommes, ça fait plus de 2 100 à 2 400 000 sujets porteurs du virus de l'hépatite B dont la majorité l'ignore. Après le virus de l'hépatite B, le virus le plus fréquent est le virus C. Là, la fréquence varie entre 2 et 14% selon les régions, avec une moyenne qui est entre 3 et 4%. Ce qui fait entre 750 000 et 800 000 sujets infectés et 90% des sujets infectés ignorent leur statut.
Alors, l'hépatite
B1... Le virus de l'hépatite Delta qui est beaucoup, beaucoup plus rare, en fait, mais dont il faut qu'on parle parce qu'on l'oublie souvent, le virus de l'hépatite Delta.
Alors, parlez-nous de cette hépatite Delta. La différence, par exemple, en termes de transmission, c'est quoi?
Non, ça partage les mêmes voies de transmission que le virus de l'hépatite B. Voilà, mais sa particularité, c'est que c'est un virus qui est défectueux, qui a besoin de la présence du virus de l'hépatite B pour se multiplier. Donc le Delta virus ne peut infecter qu'un sujet déjà porteur du virus de l'hépatite B. Donc il faut y songer et rechercher chez tous les porteurs chroniques du virus de l'hépatite B, à un moment ou à un autre, le virus de l'hépatite B. Parce que quand il est là, souvent il bloque le virus B et l'empêche de se multiplier. Et l'association du B et du Delta donc, a entraîné une progression plus rapide de la maladie du foie. Et le Delta virus, le traitement est encore plus difficile et assez décevant. Il coûte très très cher et n'est pas disponible dans notre pays. Et j'ai hélas quelques patients qui ont le Delta virus pour lesquels nous n'avons pas de traitement à leur proposer.
Alors l'accès, c'est vraiment une question centrale. On va y revenir tout à l'heure. L'hépatite B, à chaque fois qu'on fait une émission sur le foie, on se rend compte que les auditeurs sont particulièrement concernés. Par exemple, Arthur, qui de la Côte d'Ivoire, nous a laissé ce message sur le répondeur de Priorité Santé. On l'écoute.
Bonjour Caroline et bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé. J'aimerais poser des questions sur l'hépatite B parce que j'ai un proche qui, en dépit d'être vacciné tout petit, a contracté la maladie. Voilà. Et conséquence, aujourd'hui, on veut savoir est-ce que il a des traitements pour ne pas faire évoluer la maladie, mais j'aimerais savoir comment avance la recherche sur l'hépatite B et est-ce qu'on pourra avoir dans quelques années ou dans combien de temps des traitements curatifs. Et aujourd'hui, un malade atteint d'hépatite B qui suit ses traitements au jour le jour, quelle est aujourd'hui son espérance de vie en moyenne? Combien d'années il peut perdre en moyenne, une statistique sur la vie qu'il est prévu? Merci.
Alors, professeur Roger Sombier, compliquée cette question d'Arthur. Il demande si être porteur de l'hépatite B, ça ampute les années de vie. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Surtout, ce qui est important, c'est en termes de traitement. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui, professeur?
Alors, je vais commencer par rassurer Arthur en lui disant que être porteur du virus de l'hépatite B, dans la grande majorité des cas, l'espérance de vie va être la même que pour la population. La
Donc, il faut le
particularité
souligner.
africaine, il faut le souligner, c'est que je rassure vraiment tous mes malades, quand on fait le dépistage, quand ils sont en bonne santé, tout va dépendre du stade, en fait, auquel le diagnostic est fait. Si les complications sont déjà installées, c'est-à-dire qu'il y a une cirrhose ou un cancer, là, clairement, la mortalité est plus élevée, l'espérance de vie est moindre. Mais celui qui a une hépatite B avec un foie normal où il n'y a pas de fibrose importante et que le malade a un suivi régulier, il n'aura pas plus de risque en fait que le reste de la population. Voilà. Et la particularité africaine, comme il a dit, c'est que l'infection survient très très tôt, en bas âge, qui fait qu'il y a une tolérance qui s'installe donc vis-à-vis du virus. Alors, il existe des traitements très efficaces contre le virus de l'hépatite B. Le problème, c'est que c'est des traitements qui entraîne une suppression de la multiplication du virus. Le virus de l'hépatite B, au contraire du virus C, c'est que lui, quand il infecte le foie, il va rentrer dans le foie, il rentre dans le noyau et il va donc fusionner un peu avec, si vous voulez, le génome de la personne et ça devient très très difficile, on va dire voire impossible, d'éliminer complètement toutes les particules du virus B. Alors que le virus de l'hépatite C, lui, il a un cycle qui reste dans le cytoplasme. Il ne rentre pas, il ne se confond pas avec le génome du patient infecté, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des traitements qui ont ciblé les différentes parties du virus qui arrivent à guérir l'hépatite C et il n'y a pas de réservoir viral. Donc, l'hépatite B, les traitements que nous avons, c'est des traitements antiviraux, donc qui bloquent la multiplication du virus. Mais le problème, c'est que l'infection perdure et reste chez le sujet infecté parce qu'il y a eu un déficit de la réaction immunitaire. Le facteur clé, c'est ça. C'est-à-dire que le sujet, s'il a donc une réaction immunitaire, c'est-à-dire que les cellules qui le protègent contre les virus et les différents microbes, si la réaction est adaptée, efficace, la personne arrive à se débarrasser du virus. Et dans le cas du portage chronique, cette réaction est inadéquate, elle est insuffisante. Donc la recherche actuellement met l'accent sur comment réactiver ce signal-là et permettre aux porteurs chroniques, en plus du traitement antiviral, qu'ils puissent maintenant se débarrasser des cellules porteuses du virus de l'hépatite B.
Alors, toujours à propos de cette hépatite, hein, on a un autre message. Je m'excuse, je vais un petit peu accélérer parce qu'on a encore deux questions très intéressantes d'auditeurs. On ne voudrait pas les laisser, comme on dit, sur le carreau. Cet auditeur, c'est Hervé. Il nous a laissé ce message de Brazzaville au Congo.
Bonjour RFI, bonjour à tous les auditeurs de l'émission Priorité Santé. Je suis Hervé depuis Brazzaville. En effet, je vis avec ma partenaire depuis bientôt 3 ans et l'an dernier, elle a été testée positive à l'hépatite B. Moi, de mon côté, j'ai passé les mêmes tests plus de 3 fois et le dernier remonte au mois de janvier de cette année. Mes résultats ont toujours été négatifs. Ensuite, je m'étais décidé donc de me faire vacciner en mars. Elle, pour sa part, elle est suivie par un médecin qui, jusqu'à ce jour, ne lui a prescrit aucun traitement par le fait que sa charge virale serait faible et son état de santé stable. J'ai deux préoccupations. La première est celle de savoir, malgré le vaccin que je porte en moi, y aurait-il pas un risque de contamination plus tard? Et la deuxième préoccupation est celle de savoir, vu que nous sommes un couple jeune, au cas où elle tombait enceinte, quelles seront les chances pour que l'enfant soit épargné? Je rappelle que depuis juin de l'année 2019, nos rapports sont toujours protégés. Merci.
Alors, cette question de la transmission, c'est forcément quelque chose de très important quand on vit et quand on est amoureux de quelqu'un qui est porteur de l'hépatite B. Professeur Roger Sombier, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Hervé ? D'abord sur lui qui a été vacciné, est-ce qu'il peut développer la maladie ? Et puis, s'il conçoit un enfant, comment protéger ce bébé ?
Alors, je rassure Hervé, s'il a fait le dépistage avant de faire la vaccination et que les résultats ont montré qu'il était naïf, qu'il n'avait jamais été infecté au préalable, qu'il a fait la vaccination, il est protégé. Il est protégé pour toute la vie. Donc, il n'y a pas besoin qu'il ait une protection supplémentaire. Il peut avoir une relation intime normale. Il n'a pas de risque à ce niveau. La plupart des Africains, le plus souvent même, ils ont déjà une infection ancienne guérie. Donc, ce qui fait que le vaccin, ça intervient comme un plus, mais une fois qu'on a ça, qu'on est guéri, on ne peut plus l'avoir. Alors, sa partenaire peut avoir un enfant sans aucun risque. Nous avons donc des méthodes bien efficaces pour évaluer le risque de transmettre le virus de la mère à l'enfant. Le facteur clé, ça va être pendant sa grossesse, qu'on fasse la charge virale à la maman. Donc, il va permettre de savoir, voilà, si elle est très, très élevée, elle va recevoir un traitement antiviral qui est efficace, qui va bloquer la multiplication du virus. Et on va associer à cela, le jour de la naissance, le vaccin et, si possible, le sérum, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anticorps, donc qui évite la transmission du virus à l'enfant. Donc, à ce niveau, vraiment, les mesures sont très, très efficaces si elles sont appliquées et prises en charge pendant la grossesse.
Et professeur Sombier, ça s'est fait dans beaucoup de maternités ou il faut aller vers un hôpital régional, une grande structure ?
Alors là, ça c'est le problème pour mon pays et puis je dirais certainement dans les autres pays africains.
Mais on imagine que sur Brazzaville, il doit bien y avoir un hôpital qui permet d'accéder à ces tests pour que cet enfant soit conçu en toute sécurité.
Oui, sur Brazzaville, au niveau de l'hôpital central, au niveau des cliniques et tout, ils doivent avoir les moyens nécessaires pour faire les tests qu'il faut et assurer donc le suivi de la grossesse et éviter que la transmission se fasse au bébé. Maintenant, le problème va se poser dans les centres périphériques où il y a peut-être un manque de formation, un manque de laboratoire équipé pour faire les tests diagnostiques.
Donc, il faut penser à se diriger vers un grand hôpital. Ça, c'est un message important à faire passer dans ces cas-là. On va rejoindre à présent le Mali, Bamako, où l'on rejoint Doug. Doug, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Racontez-nous ce qui vous arrive. Là encore, c'est par rapport à votre couple. Hein, c'est bien ça.
Oui, c'est ça. Alors, donc, bonjour à tout le monde. Il y a 5 ans, ma femme est tombée malade, très, très malade déjà. Elle s'essoufflait beaucoup avec beaucoup d'autres symptômes. Donc, on a fait beaucoup de bilans, beaucoup de tests. On ne parvenait pas du tout à situer la maladie jusqu'à un certain moment. On nous a demandé de faire un bilan d'hépatite, un test d'hépatite plutôt, et on l'a fait. Donc, ça s'est avéré positif. Donc, le médecin traitant et son gynéco, elle était enceinte déjà, il faut que je le dise. Donc, son gynéco nous a fait comprendre que sur la médecine moderne, ils n'ont pas de traitement efficace qui peut guérir la maladie. Donc, il nous a conseillé si on peut se tourner un peu vers la médecine traditionnelle. Et donc, moi, je me suis tourné vers là-bas et en moins de 2 jours, on a eu un remède, des décoctions, des herbes qu'on a fait bouillir. Et puis, voilà, ma femme, elle allait très, très bien. Et
donc, vous avez constaté un mieux, justement, suite à la prise d'un remède traditionnel. C'est quoi la question que vous voulez poser au professeur Roger Sombier, Doug ?
Voilà. Moi, ma question est que, vu que la médecine moderne a des carences pour pouvoir pallier à cette maladie qui est vraiment très, très dangereuse aujourd'hui, et pourquoi ne pas essayer de combiner la médecine moderne et la médecine traditionnelle, aller vers ce sens pour trouver une solution à ce problème-là? Voilà, ça c'est un. Et aussi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a encore une chance qu'elle tombe encore malade et très malade par rapport à ce même problème?
Une rechute, une nouvelle crise en quelque sorte. Professeur Roger Sombier, cette question de Doug, combinaison des remèdes traditionnels et recherche, on va dire, plus conventionnelle, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense que son témoignage est très intéressant parce que la médecine traditionnelle, je dirais que elle a donc certainement des remèdes très, très efficaces, mais il y a certainement aussi des remèdes qui ne marchent pas bien. En tout cas, pour l'expérience que j'ai en pratique ici, les patients que j'ai qui ont essayé donc toutes les médecines traditionnelles, diverses et variées, qui sont porteuses du virus de l'hépatite B, je n'en ai pas vu, voilà, où j'ai eu un traitement efficace en termes de guérison, c'est-à-dire de négativation de ce qu'on appelle l'antigène HBS, c'est-à-dire la protéine de l'enveloppe du virus B. Je suis ouvert, j'ai même fait donc plusieurs essais avec des collègues pharmaciens ou des collègues qui font de la recherche, mais je n'en ai pas vu qui marche. Je crois que ce que je dis à mes patients le plus souvent ici, l'hépatite B, quand on l'a, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément malade tout le temps, on peut avoir le virus, et le système immunitaire le tolère, le virus n'est pas directement agressif pour le foie, et une fois que le système immunitaire est efficace et réagit de façon adaptée, on va guérir naturellement sans avoir besoin de prendre des médicaments. Donc, c'est des situations qui peuvent arriver, qu'on prenne des médicaments ou qu'on n'en prenne pas. Donc, pour avoir la preuve qu'un médicament traditionnel marche ici, il faut simplement que nous ayons effectivement, comme il a dit, une collaboration avec ces personnes qui pratiquent la médecine traditionnelle.
Et ça se fait, hein, parce qu'il nous appelle Doug de Bamako du Mali, et on avait récemment dans l'émission le professeur Rokia Sanogo, qui au Mali, justement, travaille directement sur cette recherche et cette convergence entre médecine traditionnelle et médecine moderne. En tout cas, merci beaucoup à Doug pour cet appel. On approche de la fin de l'émission. On a parlé des risques en fonction des virus, des risques en fonction du gras. On n'a pas vraiment parlé de l'alcool, mais ça pourrait faire partie d'une émission à part entière. Mais j'ai une question, docteur Dominique Lane. Je reviens vers vous. C'est bienvenu qui est à Djamena. Il demande si l'absorption fréquente de médicaments d'anti-inflammatoires, ça a un effet nocif sur le foie. Il faut aussi insister sur ce point. Prendre trop de certains médicaments, c'est vraiment mauvais pour le foie.
Oui, alors en ce qui concerne les anti-inflammatoires, c'est plutôt pour l'estomac que ça peut être un petit peu agressif, ça peut donner des ulcères, mais effectivement, il peut y avoir des hépatites, de véritables hépatites médicamenteuses dues à la prise d'anti-inflammatoires, mais c'est assez rare. En ce qui concerne les médicaments, il y a quand même le paracétamol qui est l'antalgique le plus utilisé dans le monde. Il ne faut jamais dépasser les doses prescrites, car dès qu'on dépasse les doses, on a un risque là de toxicité pour le foie et d'hépatite qui peuvent être très graves, arriver à des stades d'hépatite fulminante et même de décès dans certains cas.
D'autant plus que certains médicaments combinent un produit plus du paracétamol et certains patients prennent en plus du paracétamol. Donc, il faut faire attention sur cette addition gramme après gramme.
Voilà, le paracétamol, il faut vraiment regarder dans les boîtes de médicaments qu'on prend si on n'accumule pas les doses et qu'on n'en prend pas des doses qui au-dessus de ce qu'on doit prendre.
Et c'est aussi pour ça qu'il est important, quand on achète les médicaments, je dis ça en particulier à nos auditeurs et ils comprennent très bien de quoi je parle, on n'achète pas les plaquettes sorties des boîtes en carton, parce qu'il faut avoir la boîte en carton pour avoir les indications, les références et la composition des médicaments, justement pour éviter ces surdosages. On vous remercie tous les deux. Merci beaucoup pour votre éclairage sur le foie. Encore énormément de choses à dire à ce sujet. Merci à vous, docteur Dominique Lane. Je rappelle le titre de votre livre, Nash, La maladie de la malbouffe, aux éditions Flammarion. Et merci à vous, professeur Roger Sombier. Excellente journée à Ouagadougou. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, on va retrouver notre séance de relaxation en temps réel. Une séance pour prendre le temps, pour souffler, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Et désormais, c'est notre rendez-vous en votre compagnie, docteur Adrien Chaboche, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin psychothérapeute, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? On va essayer de détendre notre esprit, notre corps, à quel niveau?
Cette fois, on va trouver ce sur quoi on peut avoir confiance. On se pose tous la question régulièrement. Je manque de confiance, j'y arriverai pas. Mais si vous avez des ressources, et c'est notre corps qui va encore une fois nous guider.
Et ce corps, on le met en quelle position justement pour participer à cette séance?
Voilà une nouveauté encore, Caroline, que je vous propose. C'est que vous allez choisir si c'est votre main droite ou votre main gauche qui va aller se porter un peu comme en écharpe sur l'épaule de l'autre côté. C'est-à-dire, si c'est votre main droite que vous choisissez, vous la posez sur votre épaule gauche. Si c'est votre main gauche, évidemment, sur l'épaule droite, de manière à bien sentir votre bras au contact de vous.
Voilà, c'est fait. J'ai pris la main droite, mais bien sûr, les auditeurs font absolument ce qu'ils veulent. Et on va vous suivre. On écoute votre voix, allez-y.
Voilà, exactement. Suivez la voix. La voix est toute tracée. Alors que souvent, justement, on se dit « mais je vais pas y arriver, je ne sais pas par où passer, je ne sais pas comment faire, comment je vais faire ?» Puis alors en plus, évidemment, en même temps qu'on est en train d'y penser, vous vous souvenez bien de toutes ces suggestions, ces injonctions qu'on a tout au long de la journée. « Faut être forte, faut être fort, faut y arriver, faut être en forme, faut être bon, faut réussir, oh là là !» Et la plainte, au milieu de tout ça, on a le droit de se plaindre, on a le droit de se dire « mais je me sens seul », on a le droit de se dire « mais je doute », on a le droit d'hésiter, on a le droit de se dire que c'est pas facile tout ça, et qu'on ne s'y retrouve pas, qu'on se sent parfois un petit peu perdu, on se sent parfois un peu tout petit, tout resserré. Maintenant même qu'on est en train d'y penser, chers auditeurs, Caroline, on pense à tout ce qui influe sur nous. Et c'est vrai qu'au niveau de la poitrine, on peut se sentir un peu resserré, un peu oppressé. C'est normal. On ne fait ensemble, là, que rendre apparent ce que vous endurez depuis tout ce temps. On est tellement sous cette pression. Alors maintenant, on peut ressentir différemment quelque chose en fermant les yeux. Imaginez, lorsque vous êtes bousculé, peut-être dans les transports, peut-être par quelque chose qu'on vous a dit, c'est peut-être pas forcément physique, on perd notre équilibre, on se sent perturbé, bousculé. Et dans votre esprit, il y a des images qui nous viennent, évidemment. Mais c'est dans votre corps, soyez à l'écoute, silencieusement, que vous apparaît maintenant quelle partie de votre corps prend appui par réflexe, se tient à quelque chose pour garantir, pour maintenir votre équilibre. Ou bien rappelez-vous si un jour il vous est arrivé d'être dans l'eau peut-être et de sentir que vous n'aviez plus pied, ou peut-être de sentir que vous étiez à la surface un peu vers à boire la tasse. Et maintenant, c'est à nouveau votre corps qui se rappelle de quelle manière vous avez pu prendre appui. Un jour, vous êtes tombé, et même quand vous étiez petite, vous êtes tombé 1000 fois. Et à chaque fois que vous êtes tombé, aucune fois, vous vous êtes dit « Oh ben non, j'arrête, j'abandonne, je laisse tomber, je ne marcherai pas ». Non, bien sûr que non. On prend un moment, on souffle. Et vous ressentez votre main sur votre corps. Votre main sur votre corps, c'est votre confiance, c'est comme une main sur votre épaule. C'est comme si ma voix vous accompagne, se pose sur votre épaule et vous dit « ça va aller ». Ça va, on est là. Ça va, il y a le corps qui est là. On peut prendre confiance. On peut prendre confiance parce que votre corps est toujours là. Votre corps ne vous ment pas, mais il a toutes les ressources pour vous aider. Simplement, ne l'empêchons pas de faire, laissez-le faire. Comment ? Oh, c'est très simple. Ne faites rien. Vraiment rien. De plus en plus rien. Acceptez de vous plaindre, acceptez que ce soit difficile. Laissez les ressources de votre corps agir et vous montrer la voie que vous suivez. Et alors, naturellement, vous sentez maintenant. Encore une fois, on ne sait pas à quel moment ça s'est passé, mais c'est un peu magique. Il y a eu une respiration. Et votre bras qui est sur vous, comme quelqu'un qui vous épaulerait, comme quelqu'un qui sera toujours là, la confiance. Ça fait du bien de pouvoir compter sur soi. Peut-être même, vous auriez l'impression, votre bras, c'est comme le bras de quelqu'un d'autre, un peu. C'est une présence qui est toujours là. Respirez. Naturellement, vous sentez maintenant les mouvements libres de votre cage thoracique, de vos poumons, de vos muscles détendus. D'ailleurs, le bras, vous vous rendez compte comme il a ce poids sur vous, il est vraiment très très présent. Et c'est très bien. De vos réflexes du corps, vos ressources vous montrent ce qu'il faut faire. Serrez maintenant par exemple le poing de l'autre main. Serrez fort jusqu'à ce que on n'en puisse plus et qu'on relâche. Voilà. Et on relâche et vous sentez ce que d'ouvrir la main fait comme bien. Inspirez. Retenez votre souffle. Et expirez. Ah, voilà, on redécouvre ce que ça fait que bien respirer. Remarquez vos pieds. Et appuyez sur le sol. Vous remarquez à nouveau où nous sommes. Tous ensemble, nous sommes là. Le sol est bien sous vos pieds. Vous y êtes bien. Si vous avez un dossier de fauteuil, posez vos épaules dedans. Pas que le milieu du dos, les épaules aussi. Voilà, on reprend place. Si vous avez fermé les yeux, naturellement, vous allez sentir le bon moment pour les rouvrir. Et si vous rouvrez les yeux, Caroline, alors nous sommes ensemble et on a vraiment confiance à ce que notre présence nous montre les bonnes sensations. Et aujourd'hui, vous serez attentif, attentive à suivre, comme dans un bon courant, les bonnes sensations. Elles vont vous guider vers ce que vous voulez réaliser, vers vos projets. Confiance, la voix, écoutez-la, elle vous guide.
Merci, merci beaucoup docteur Andrien Chaboch pour ce moment de respiration, de nous avoir guidés pendant cette séance en temps réel. Et vous, auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces séances sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup docteur et on vous retrouve la semaine prochaine. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À Cétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Raphaël Lazizi et Cécile Pompéani aujourd'hui. Lundi, nous donnerons la parole aux jeunes auditrices, une émission consacrée à la santé au féminin. On se retrouve donc lundi. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. 7 milliards.